La découverte et la rencontre des acteurs de la vie chrétienne, c'est uniquement et simplement dans l'émission « L'Église dans la cité ».
Vous nous rejoignez sur RCF Radio. Bienvenue et bienvenue donc à tous nos auditeurs. Je suis en compagnie du père jésuite Henri Aubert aujourd'hui. Bienvenue aussi sur nos antennes. C'est la première fois chez nous pour RCF Sud-Belgique, je crois, mais vous êtes plus un habitué au départ des médias français. Notamment, vous m'avez dit le jour du Seigneur et puis RCF aussi, vous êtes déjà intervenu, mais côté français, c'est bien ça?
Oh, mais même côté de Liège.
Et même côté Liège. Eh bien, voilà, on finit la boucle. Et donc, vous êtes arrivé il y a un peu moins d'un an, en septembre, à Namur, à la chapelle universitaire Notre-Dame de la Paix. Comment s'est passée votre arrivée en pleine période Covid, finalement?
Oui, bonjour. Donc, merci de m'accueillir. Oh, ben voilà, ça s'est plutôt bien passé. Le dimanche 13 juin, il y a l'évangile. C'est l'évangile de la parabole qui... de la graine qui pousse toute seule, eh bien, j'ai l'impression que depuis un an, je suis un peu comme cette graine qui pousse toute seule, ou plutôt ce qui se vit, on ne sait pas comment ça se passe, et ça pousse pourtant, et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que ça, depuis un an, effectivement, je n'ai pas fait énormément de choses, où il n'y a pas beaucoup de visibilité, mais il n'y a pas beaucoup de visibilité de ce qui se passe, mais il y a des choses qui poussent. Et clairement, on en parlera tout à l'heure, il y a une enquête qui a été lancée et manifestement, les gens veulent quelque chose. Et on s'ouvre, le déconfinement commence et manifestement, les gens ont besoin de beaucoup de choses.
Alors on va en parler justement de toutes leurs attentes finalement. Et donc vous veniez au départ de France, avant d'arriver à Namur, vous étiez en France?
Oui, je suis jésuite depuis bientôt 50 ans. Et j'étais chapelain de la chapelle des jésuites, l'église des jésuites à Paris, l'église Saint-Ignace. Et puis avant, j'étais aumônier d'étudiants. Et comme vous le disiez au début, j'ai travaillé au jour du Seigneur, mais il y a une trentaine d'années, comme chargé de production. J'ai fait des émissions de catéchèse et puis aussi les messes télévisées. Mais voilà, le média, je connais un peu, mais je suis plutôt derrière la caméra que devant.
Ah voilà. Alors, on fera aussi un peu la présentation tout à l'heure de votre communauté ici à Namur, hein, en parlant de vos activités. Vous parliez de ce questionnaire que vous avez fait passer à vos paroissiens, vos fidèles. D'où est venue cette idée et de quoi s'agissait-il exactement?
Eh bien, effectivement, on va sortir du confinement, on se déconfine petit à petit, c'est douloureux, c'est difficile parce qu'il y a des règles et puis d'autres qui réarrivent, etc. Ce qui est important, c'est de se dire, ça fait un an qu'on est plutôt dans le silence, où chacun chez soi, mais maintenant il faut refaire la communauté, et une communauté qui soit une communauté qui est ouverte au monde, mais qui se rassemblent dans l'Eucharistie en particulier, mais pas simplement dans l'Eucharistie, pour ressortir vers l'extérieur. La parabole dont je parlais tout à l'heure de Saint-Marc est suivie d'une autre parabole de la graine de moutarde qui est toute petite, toute petite, toute petite, et qui va pousser au point de devenir un arbre tellement grand que les oiseaux du ciel viennent y loger et faire leur nid. Eh bien, d'une certaine manière, cette enquête, c'est une manière de demander aux fidèles de la chapelle comment ils vont vivre cela et comment ils vont rayonner et qu'est-ce qu'on va faire ensemble.
Alors vous parlez de l'importance aussi de la communauté, il faut déjà savoir qui est dans cette communauté, de quoi on parle finalement, ça donne quoi tout ça, ça vous a, dans quel sens ça a stimulé votre réflexion cette période de Covid par rapport à tout cela, ces enjeux relationnels finalement entre chrétiens et peut-être non chrétiens également?
Oui, alors la chapelle universitaire Notre-Dame de la Paix, c'est une petite chapelle à peine visible au bout de la rue du Palais de Justice. C'est dans un immeuble des années 70. Ça ne se voit pas. C'est petit. C'est des personnes qui viennent parce qu'ils savent que c'est la chapelle des Jésuites, parce que on va y entendre de belles homélies, etc. Et aussi, et là j'ai entendu cela de la part du vicaire général, le père Joël Rochette, qui nous a dit, vous avez un lieu important d'écoute et d'accompagnement. Et donc il y a quelque chose de très fort là. Et de fait, les gens viennent parce qu'ils se sentent écoutés, parce qu'ils peuvent parler. La chapelle est ouverte toute la journée, en général. Il y a la possibilité de se confesser. Donc c'est un lieu d'écoute. Et ceci est très important. C'est aussi un lieu d'envoi, puisque on a deux messes par jour en semaine, 7h15 et midi, et puis 4 le dimanche, ce qui est important. Alors, grosso modo, c'est une population, le dimanche, entre 200 et 300 personnes qui viennent aux 4 messes, je veux dire pour l'ensemble des 4 messes. Mais c'est un petit monde qui vient de partout, de Namur et des environs, et qui forme quelque chose, j'allais dire d'hétéroclite, si je peux me permettre de dire cela, mais surtout de très grande diversité.
Et dans votre questionnaire, ça s'est ressenti, une diversité ? Ça a donné quoi, le questionnaire, les résultats, les réponses que vous avez eues ? Il y a des choses qui vous ont marqué plus que d'autres, j'imagine.
Alors, ce qui m'a marqué, c'est une grande espérance. C'est que la question, c'est vous avez vécu le Covid, cette année de confinement, qu'est-ce que vous en tirez ? Eh bien, c'est d'abord la redécouverte de l'Eucharistie. En manque d'Eucharistie, on redécouvre son sens. Et alors, on l'a vu à la télé ou dans sur Internet, etc. Et tout d'un coup, on découvre que l'Eucharistie, c'est vraiment le cœur de notre vie. Donc ça, c'est vraiment ça qui est important. La deuxième chose qui est importante, c'est que il faut qu'on construise quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est au cœur des préoccupations même du diocèse, puisque le diocèse est en train de faire une enquête et que l'Église universelle est en train d'enquêter. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Nous sommes de plus en plus ou de moins en moins nombreux. On va de plus en plus petit, on ne nous écoute plus. En Belgique, alors là, j'ai découvert que finalement, on est un peu ignoré, même par les politiques et même par les médias. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire pour rayonner de la joie qui nous habite, du message de paix et de fraternité ? Et ça, c'est quelque chose qu'on a à faire, même dans une petite communauté comme la nôtre.
Et bien sur cette question, je propose de passer la première pause musicale et on se retrouve juste après.
Et
Je suis donc en compagnie du père jésuite Henri Aubert qui nous parle des activités de la chapelle universitaire Notre-Dame à Namur et aussi du questionnaire et de la réflexion qu'il a suscité autour d'une église qui doit essayer de se renouveler, en tout cas réfléchir à la suite après cette période de Covid. Alors justement, vous pouvez nous partager quelques-unes des réflexions qui sont peut-être les plus marquantes dans les réponses reçues.
Oui, alors j'en dirais une seule parce que je trouve c'est assez fort et ça me bouscule parce que je me dis dommage qu'on en soit à cette désespérance. Alors c'est une désespérance. Je lis ce qui a été dit. S'agissant de l'Église institutionnelle comme telle, l'absence de parole et de présence, en particulier auprès des plus souffrants, a été ressentie extrêmement douloureusement. Est-elle encore nécessaire, cette Église? Alors, comme le dit un autre prêtre, elle est en train de s'effondrer. Et alors, je continue la citation, « Les insupportables scandales récents révélés par les médias, Canada, Cologne, position de Rome par rapport aux homosexuels, jeux de pouvoir insupportables, situation diocésaine indigente, remettent fondamentalement nos engagements en cause. » Et alors là, ça me touche, parce que si ce qu'est l'Église, qui est pécheresse comme chacun d'entre nous, nous dit que finalement on se désengage. Dans la région flamande, il y a un certain nombre de chrétiens qui se sont désinscrits de leur baptême. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça m'interroge. Quand je vois les gens qui viennent, ils sont effectivement demandeurs d'aide, ils ont besoin de miséricorde, etc. Et finalement, ce qui se passe dans l'Église, qui est pécheresse, qui a des problèmes, bon, mais ça vaut vraiment la peine de se dire, justement, c'est raison de plus de m'engager.
Oui, et à la fois, cette question de l'engagement, elle est très exigeante. On sent parfois aussi des freins, des réserves dans les communautés, certainement aussi bien peut-être finalement chez les laïcs que chez même, pourquoi pas, chez les prêtres, etc. En tout cas, c'est ressenti. L'impression aussi qu'on a eue pendant le Covid, c'était qu'il y avait à la fois des communautés très actives qui ont cherché des solutions et d'autres qui sont restées en retrait. Finalement, le paysage a été très très étendu et aussi bien des vécus finalement très douloureux qu'il faut, comme vous dites, ne pas négliger.
Oui, alors la personne qui écrivait l'a précisé après, ce qui ne nous empêche pas d'être présents auprès de nos prochains. Et c'est là qu'est l'urgence, et je crois que c'est vrai. Mais alors, je pense que effectivement, il y a eu des drames. Il y a des églises qui n'ont pas ouvert les dimanches, qui n'ont jamais fait de messe parce que c'était trop compliqué à 15, etc., s'inscrire. Et donc, on m'a dit cela, qu'il y a des quartiers entiers qui n'avaient plus de messe. Bon, très bien. Enfin, très bien ou très mal. Mais ce qui est important, c'est maintenant, il nous faut qu'on sort du confinement, qu'on a devant nous un temps ouvert, eh bien, il faut s'y mettre. Et c'est pour cela que je trouve qu'il faut lancer une enquête. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? En disant, c'est pas les prêtres qui vont faire, c'est avec vous. Et c'est très important. Et c'est ce que fait donc le diocèse, en envoyant lui-même une enquête aux paroisses. Et c'est ce que fait l'Église universelle, avec le synode qui vient.
Alors vous dites-le avec vous, je crois que c'est vraiment important, hein. C'est important aussi dans la liturgie eucharistique, si je ne me trompe pas, hein. Le Seigneur soit avec vous. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné une difficulté à sortir d'un modèle, comme on dit, clérical, où le prêtre était finalement un peu le centre de toutes les relations, hein, de lui émanaient les différentes relations vers le reste des paroisses, un autre modèle finalement tout aussi peut-être clérical qui est de déléguer et où le prêtre contrôle et se retire, et le « avec vous » finalement, on est dans quelque chose de neuf qui est à repenser. C'est un défi.
Tout à fait. Vous avez raison. J'ai un de mes compagnons jésuites qui, à la messe, ne dit pas « le Seigneur soit avec vous », c'est « le Seigneur est avec vous ». Et je crois que c'est très important. Et alors, justement, le contexte dans l'Église, avec le pape François qui veut un synode sur la synodalité, mais qu'est-ce que c'est que la synodalité? C'est la nécessité aujourd'hui de s'écouter, de se parler, mais d'abord d'écouter ce que dit l'autre et ce que pense l'autre, et donc d'accepter qu'il y ait des conflits. Et le pape François, dans son livre « Un temps pour changer », que je recommande vraiment, qui est sorti en décembre dernier, dans ce livre, le pape François explique qu'il ne faut pas avoir peur des conflits. Donc il faut accepter que l'autre en face de moi pense différemment, et même éventuellement me mettre en colère contre ce que l'autre dit, en lui disant « mais ça va pas ce que tu racontes ». Mais pour petit à petit se comprendre, et éventuellement trouver une solution. C'est pas pour dire « ah ben oui, t'as raison, ben je fais comme tu dis, mais je suis pas d'accord ». Eh bien c'est pas un problème d'accord ou pas d'accord, c'est de faire avancer. Et c'est ce que le pape François appelle le débordement, qui vient de l'esprit, et nous avons à trouver des débordements tous.
Et alors justement aussi, vous insistez très justement sur l'importance de ne pas finalement faire un enjeu d'une relation rien qu'entre deux personnes qui auraient raison sur lequel, et ça prête aussi, ça ouvre la question du tiers qui est concerné par les questions dont on peut débattre à deux ou à deux groupes, dont il faut aussi prendre en compte finalement dans cette discussion.
Tout à fait. Effectivement, je reviens, je ne réponds pas tout à fait à ce que vous venez de dire, mais c'est vrai qu'il faut sortir d'une position de pouvoir chacun essaye d'avoir sur l'autre. Et donc, mais l'idée, c'est que c'est pour l'autre, effectivement, pour un autre. Et que notre communauté chrétienne, si elle se réunit dans notre petite chapelle, c'est pas pour se réunir et se faire du bien mutuellement, mais c'est pour pouvoir sortir et accueillir, comme dans la parabole de Saint-Marc, accueillir les oiseaux du ciel, tous les oiseaux du ciel.
Eh bien, on va passer la deuxième pause musicale et on se retrouve pour parler des activités que vous allez proposer, justement, fort de toutes ces réflexions. À tout de suite. Nous arrivons à la troisième et dernière partie de cette émission avec le père jésuite Henri Aubert pour parler donc de la chapelle universitaire à Namur. Ben justement, on le disait, universitaire, quelle est finalement votre implication par rapport à l'université ?
Alors la chapelle universitaire, elle a été commencée au 19e siècle, donc ça fait déjà longtemps, dans un collège jésuite. Et ce qui était le collège Notre-Dame de la Paix, qui est petit à petit devenu une université, les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix. Et donc, comme je le disais au début, la chapelle où nous sommes, avant les années 70, était dans les locaux immédiatement du collège en question d'origine. Et elle a été démolie pour construire des bâtiments pour l'université, et elle a été construite dans des bâtiments de l'université. Donc, elle est vraiment chapelle universitaire. Sauf que, et là, c'est une vraie question, c'est quelle est notre présence dans ce monde universitaire ? L'université était une université jésuite, il y avait le recteur jusqu'à il y a une quinzaine d'années, était jésuite, et tout le monde disait, c'est les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, mais c'est une faculté jésuite. Et puis, depuis quelques années, c'est le recteur, je crois que c'est le troisième qui vient d'être élu, Madame Annick Cassio, le recteur est laïque, et il n'est pas nommé par les jésuites, il est élu par l'ensemble de l'université. Donc, petit à petit, et puis autrefois, il y avait des profs jésuites en philosophie, mais aussi en sciences naturelles, etc. Maintenant, il n'y a plus. sauf des enseignants en sciences religieuses. Et donc, qu'est-ce que nous y faisons? Et c'est une vraie question. Cette chapelle qui est au cœur même de l'université, comment peut-elle être présence dans ce monde universitaire? Comme la petite graine qui pousse toute seule sans qu'on sache comment. Alors, c'est vraiment une question et ça fait partie des interrogations que nous nous donnons avec le membre de l'équipe d'animation pastorale. Comment être présente à l'université?
Alors justement, donc on parlait à la fois de l'enquête, à la fois maintenant de cette réflexion sur la présence parmi les étudiants, le monde universitaire au sens large, parce qu'il n'y a pas que les étudiants dans une université non plus. Alors justement, quelles sont vos perspectives? Comment allez-vous travailler pour la suite à partir de tout cela?
Oh ben alors, d'abord, j'ai oublié de dire qu'il y a une aumônerie universitaire, avec un lieu universitaire qui s'appelle le CRU, le Centre religieux universitaire, qui est un COT où il y a une dizaine d'étudiants, puis un deuxième COT ailleurs dans l'université, des étudiants qui souhaitent être vraiment dans l'aumônerie et qui, en quelque sorte, rayonnent dans l'université. C'est un petit nombre, mais... Et donc, avec ce centre, cette aumônerie universitaire, nous avons à travailler vers les étudiants, mais les étudiants ignorent à la limite que ça existe, et puis surtout ont vraiment d'autres préoccupations que des préoccupations spirituelles et de foi. Quand je dis ça, ce n'est pas sûr. Il y a des préoccupations, mais... Comment allons-nous répondre à leurs préoccupations intérieures et spirituelles?
Oui, parce qu'elles peuvent aussi s'exprimer différemment que dans notre, on va dire, dans notre discours avec nos codes habituels. Et donc, finalement, concrètement, comment vous imaginez pouvoir prendre une nouvelle place, peut-être, par rapport à tout cela?
Eh bien, je crois que c'est là l'enjeu. Pour l'instant, je ne sais pas. Alors, il y a une messe tous les mois. Le premier jeudi du mois, à midi, il y a une messe universitaire. Donc l'université est invitée, tous ceux qui veulent viennent. C'est très très peu, mais l'idée c'est de développer cette messe pour lui donner vraiment sa force. Et puis on participe à la messe de rentrée, il y a une messe de rentrée de l'université, il y a une messe de la fête de l'université, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est connu. Mais ça c'est des choses cultuelles. Il nous faut lancer des soirées, des temps de réflexion sur les sujets du monde, etc. Enfin, on a à imaginer des choses.
Alors on arrive déjà au terme de cette émission, mais on va peut-être déjà rappeler l'adresse du site web de la chapelle. Et aussi, on le sait, on est dans une année ignatienne, donc par rapport à cela, il y a peut-être des grands événements à rappeler en rapport avec tout cela pour laisser nos auditeurs avec de belles perspectives pour l'été.
Oui. Alors, d'abord, effectivement, il y a un site internet, il y a le site de l'UNAMUR qui renvoie au site de la chapelle universitaire, donc la chapelle fait vraiment partie de l'université, d'une certaine manière. C'est donc c'est www.chapelleuniversitaire-namur.com. Donc en un seul mot, chapelleuniversitairenamur.be.
Ah, c'est simple. Et alors, vous me parliez aussi, avant notre entretien, d'une grande célébration en lien avec Saint-Ignace.
Oui, alors le 20 juin 1521, c'est-à-dire il y a 500 ans, le Saint-Ignace de Loyola, où à l'époque il était chevalier, a été blessé à la bataille de Pampelune, et ça a été pour lui le point de départ d'une guérison intérieure, d'une conversion qui l'ont conduit à faire la compagnie de Jésus. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Donc il y a 500 ans. Et donc c'est une année ignatienne et il y a deux moments importants. Le 31 juillet à 17h à l'église Saint-Loup. Alors l'église Saint-Loup, c'était l'église Saint-Ignace l'église du collège de Namur, avant la suppression de la compagnie. La compagnie a été supprimée en 1773 et la commune a récupéré l'église et en a fait l'église Saint-Loup, qui était en ruine à côté, donc ils ont remis sur Saint-Ignace. Donc, 31 juillet à 17h, Saint-Loup. Et puis, deuxième événement important, du 30 octobre au 1er novembre, à la Toussaint, un grand rassemblement de la famille ignatienne des jésuites francophones, avec tous leurs amis, les familles, etc., à Marseille. C'est loin, mais nous pensons être 8000, si les conditions sanitaires sont possibles. Et tous les amis sont invités pour faire une grande fête, justement, dans le cadre de cette année ignatienne.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Et donc, pourquoi pas une petite escapade en train aussi, la ligne directe vers Marseille pour le mois d'octobre. Eh bien, merci encore, Père Henri Aubert. Et peut-être à de prochaines fois, pourquoi pas, pour continuer de discuter à propos de tout cela. Merci encore.
Je vous remercie beaucoup de votre accueil.
Merci. Salut.